C'est bon pour la santé.
Bonjour et bienvenue à C'est bon pour la santé. Ici Camille Chai, votre animatrice, en compagnie de mon cher co-animateur François Baruel. Bonjour François.
Bonjour Camille.
En rafale, aujourd'hui, nos intervenants sont Annick Filion, qui a mené un vox pop sur l'angoisse, et Patrice Cocro nous livre un coup de gueule qui s'intitule « La pollution sonore ». Alors, on commence cette émission en beauté en parlant d'un sujet qui est quand même assez fréquent. On parle de l'anxiété profonde et du dynamisme que Jean Robitaille a trouvé pour trouver des moyens, en fait, d'en guérir de cette fameuse anxiété. Donc, on a Jean Robitaille qui est en studio avec nous et qui a écrit le livre « Guérir à s'en rendre malade » paru aux éditions Libre Expression. Et en seconde partie d'émission, nous recevons la nutritionniste Maryse Charon, qui vient nous parler du livre qu'elle a coécrit avec Elisabeth Cerquera. Et ce livre s'intitule « Maigrir, 21 jours de menu », paru aux éditions Modus Vivendi. Alors, bienvenue à vous tous. Merci de passer cette heure avec nous. Et maintenant, ce n'est plus un secret, hein. Vous nous écoutez parce que vous savez que ce qu'on vous présente, c'est bon pour la santé. Bonjour Jean Robitaille.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à vous.
Jean Robitaille, vous êtes un auteur, compositeur, interprète qu'on ne présente plus. C'est vrai que vous avez fait 5000 chansons, 5000 musiques, 400 chansons, des choses extraordinaires.
Des films.
Des films, des livres. Vous avez une activité assez protéiforme.
Je crois que je suis un TDAH.
C'était la question que j'allais vous poser. Et puis, vous avez donc vous avez reçu tellement de distinctions qu'en fait, maintenant, on ne va pas les énumérer non plus. Mm-hmm. Mais vous avez écrit un livre, « Guérir à s'en rendre malade », chez Libre Expression, qui raconte votre bataille contre votre trouble anxieux.
Ouais.
Vous savez, c'est plein d'humour, c'est un véritable roman, en fait. C'est avec un rythme terrible de vrai musicien. On attend la suite à chaque fin de chapitre. On se demande dans qu'est-ce qui va vous arriver après. C'est fantastique. Et puis, dans quoi vous allez, en fait, foncer tête baissée? Parce que vous vous présentez presque comme un naïf, en réalité, à cause de cette maladie-là. Je me suis amusé, en fait, du début à la fin. Puis vous dénoncez aussi le travers de tous les psys, entre guillemets, hein, bien sûr, hein. Vous dénoncez les travers de tous ces gens qui sont des vendeurs de bien-être et des escrocs en réalité. C'est un vrai, véritable florilège. Alors, vos troubles d'anxiété sont des troubles extrêmes, avec des angoisses de mort épouvantables. Le chapitre 1, d'ailleurs, le chapitre 1, vous commencez, vous mettez en scène, vous avez une crise, un véritable infarctus du myocarde. Ça commence comme ça, en fait.
Oui, dans mon bureau.
Dans votre bureau. Ouais, alors, on se demande, on se doute bien que c'est évidemment pas un infarctus du myocarde, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une vraie souffrance morale. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, aujourd'hui, si je réécrivais le livre, je parlerais de ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, je poursuis actuellement quelques études et des recherches sur la psychogénéalogie. Mm-hmm. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a dans nos ancêtres, des réponses à ce qu'on est aujourd'hui. Hein. On a été fabriqués dans une usine d'ancêtres.
Mais vous le glissez justement, vous parlez de votre grand-père qui était mort jeune, vous parlez de votre famille et des antécédents familiaux, justement.
Oui.
Mais c'est un aspect c'est un aspect somatique dont vous parlez.
Oui, mon père était un anxieux terrible. Ma mère était probablement aussi très, très anxieuse, sauf que elle, sa façon, c'est celle que j'ai prise, moi, c'était de foncer tête baissée et de pas tenir compte de ses limites. Alors voilà, je suis devenu un excessif comme maman Yvette, qui était une excessive aussi.
Même votre grand-père, vous en parlez, en fait?
Mon grand-père, c'était un musicien. Il faisait il accompagnait les films avec du ragtime, il jouait du piano, des films muets. Ouais. Alors, il jouait au théâtre Lowe's, mais avec des choses dans la famille que je ne peux pas vraiment révéler maintenant parce que j'ai promis de jamais le dire. Des choses assez terribles qui s'étaient passées. Il s'est mis à boire et il a glissé dans la fosse au lion, si je peux dire. Mm. Et c'est un grand talent artistique qui s'est perdu. Mm. Et il a habité chez nous les dernières années de sa vie pendant 10 ans. Alors, des fois, il buvait. Mm. Je devais le garder. Vous il rentrait dit... à la maison. Mm. Et là, il était tombé avec des bouteilles dans ses poches. Oh, et
oui,
voilà.
Oui, d'accord. Oui.
Et là, j'étais le gardien du grand-papa.
Mm. Et vous, justement, mm. est-ce que c'est cette angoisse, parce que vous-même, vous avez bu?
Oui.
Vous le racontez dans le livre, c'est impressionnant. Vous avez fumé. Vous parlez même de 5 paquets de cigarettes par jour, une fois. Vous allumez la cigarette que vous venez de finir, cigarette à celle que vous venez de finir. Ça n'arrête pas tout au long de la journée.
C'est regrettable, il n'y avait pas assez d'heures dans la journée pour en fumer plus.
Exactement, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Donc c'est cette angoisse-là, déjà au départ.
Ouais.
Et vous vous laissiez aller, et notamment avec la boisson.
Ben, on découvre de plus en plus, vous savez, avec l'alcool, tout ça. Je regardais la semaine dernière, il y avait une émission avec, excusez mon chat, mais on va vivre avec. J'apprends à vivre avec les choses aujourd'hui. l'émission de David Suzuki qui s'appelle The Nature of Things. Et il parlait justement de l'alcoolisme. Mm. Et l'alcoolisme a ses bases, ses fondements dans l'hérédité. Mm. Ce qui se passe, c'est que il y a des gens, puis je fais une relation avec ça, qui ont une absence de dopamine. Mm. Donc, qui n'arrivent pas à être bien, qui sont constamment... Alors, ça peut être génétique, ou ça peut être aussi, plus on consomme, plus les récepteurs de dopamine... Mm. Arrête de fonctionner.
Ouais.
Donc, l'alcool va remplacer cette dopamine-là, mais ça crée des cravings, comme on dit en bon français, des envies de boire ou des envies de se geler ou des envies de jouer qui sont terribles, qui sont presque
invincibles,
oui, tout à fait, parce que c'est plus fort que la personne. Ça fait partie de son trouble génétique. Et apparemment, maintenant, il existe, mais c'est pas légal au Canada, il existe des médicaments, dont le truc qui s'appelle Vivitrol, qui n'est pas approuvé par le gouvernement ici.
C'est du baclofène?
Non, ça s'appelle Vivitrol.
Oui, mais la molécule, c'est... Enfin, bon,
je ne sais pas, regardez donc. Moi, je ne suis pas médecin, c'est vous. Là. Je fais attention pour ne pas donner d'ordonnance. Écoutez, il en parle dans cette émission. quelqu'un qui veut en avoir une dose, parce que ça enlève justement les envies, les cravings. Mm-hmm. Alors, la personne a moins de difficultés à pas se battre avec son envie de boire, avec cette...
dépendance.
C'est plus comme un état d'être, être amorti. Il y en a qui appellent ça l'angoisse du dimanche. Mm-hmm. Il y en a qui appellent ça autrement. C'est une angoisse profonde qui fait qu'on n'a pas d'énergie, qu'on n'arrive pas à avoir cette drogue du bien-être-là. Mm-hmm. Alors, il y a une génétique qui ne fonctionne pas bien.
Et
je me souviens parce que je pensais à ça, c'est drôle, hier, parce que mon père est passé pour un paresseux. Mon père, il dormait le dimanche. Il venait nous visiter au collège, puis il dormait dans son auto. Là. Alors, il y avait cette fatigue-là, cette paresse, à ne pas bouger, l'exercice qu'il faisait, on ne me voit pas, là, mais c'était à peu près ça dans la journée, bouger ses doigts.
Ça découlait peut-être d'une angoisse. D'ailleurs, allons écouter le Vox Pop d'Annick Filion qui traite de l'angoisse et on revient tout de suite après.
Absolument.
Mad Malik,
Jayla,
Jenna,
Angeline, Audrey,
Clarisse,
Carmen,
je m'appelle Jeanne,
Geneviève,
Emile,
Adèle,
Maïva,
Mara,
Alexandra,
Félix,
Emmanuel,
je m'appelle Dan,
Marianne,
Patrick,
Coralie,
Vicente,
Émine Aigul,
Anna.
Est-ce que vous avez des petites ou des grandes angoisses dans la vie?
Ah oui, bien sûr. Qui pourrait prétendre ne pas avoir d'angoisse? L'angoisse, c'est le propre de l'homme. Papa Sambe, 48 ans, je suis originaire du Sénégal et je vis à Montréal depuis 28 ans. Déjà, on ne maîtrise pas toute l'information qui nous arrive. On n'est pas capable de tout processer, on n'est pas capable de tout comprendre. Donc forcément, tout le reste, qui est beaucoup plus énorme que ce qu'on est capable de prendre, ne peut que nous faire angoisser.
Mais j'ai eu 4 enfants dans ma vie, donc juste l'effet
gérer toutes les enfants, ça m'apportait beaucoup d'angoisse. Je travaillais très fort aussi. Moi, c'est João.
Et pour vos enfants, vous angoissiez à propos de quoi?
Ah oui, les enfants, par contre, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils veulent étudier, ils ne veulent pas étudier, ils veulent travailler, ils ne veulent pas travailler. Puis ça, on se sent responsable pour les enfants, donc l'angoisse, ça vient avec.
Ah oui, quand le monde se plaint, quand le monde, parce que je travaille dans un café, ils vont se plaindre sur la température. Oh, il fait trop froid. Oh, il fait trop chaud. Et ça m'angoisse beaucoup parce que j'aime
si
pas ça
que le monde... qui vient ici comme... parce qu'il y a beaucoup de...
réguliers qui viennent tous les jours, ça, c'est la famille. Quand on voit pas la famille, après une heure, deux heures, ça commence à être frustré parce que je me sens comme un robot. Là, le plus que je pense que j'en ai beaucoup d'angoisse.
C'est peut-être pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée maintenant, je veux pas en parler de ça.
Est-ce que vous angoissez souvent dans la vie?
En fait, je pars du principe que je veux être heureux, j'imagine que tout le monde aussi, mais que je dois me donner les moyens d'eux. Donc, quand j'angoisse, je m'en veux à moi-même de ne pas avoir trouvé la façon adéquate pour que je m'épanouisse. C'est sûr qu'il y a des downs, il y a des idées noires, il y a de la paranoïa, il y a parfois...
Les angoisses, ce serait comme quoi?
Vous pouvez
me donner des exemples?
Les angoisses, ne pas pouvoir payer mon loyer, ne pas trouver, ne pas pouvoir garder mon travail, tomber en panne en plein milieu de la ville. Je ne sais pas, ça peut être toutes sortes de choses, des plus petites aux plus grandes. Et ce qui est formidable, c'est que justement, quand on angoisse, on n'a plus la capacité à relativiser. Et donc la moindre fourmi, la moindre petite fourmi nous semble être un dinosaure insurmontable.
Mon nom c'est Patricia, je suis un psychic medium, j'ai des dons, je suis née avec des dons depuis très jeune.
Quand les gens ils viennent vous voir,
oui.
C'est parce qu'ils ont des angoisses sur leur futur?
Toutes. Leur grosse angoisse c'est toujours qu'est-ce que ça va arriver dans le futur? Comment je fais pour enlever quelque chose dans le passé et qu'est-ce que je fais dans le présent? Je dis toujours à mes clients de rester dans le moment parce que dans le moment, tu vois toute la magie du monde. Parce que
je suis diabétique, j'ai eu un ACV. Qu'est-ce qui m'angoisse un peu, c'est être vraiment malade, vieux et malade.
Très vous pensez souvent à la mort?
Non, je ne pense pas à la mort. J'ai pas peur de mourir parce que la mort, c'est fini après. Après, c'est les vacances.
Puis pour calmer vos angoisses, vous faites quoi?
Moi, quand que je vais dans la nature, moi, la nature, être à côté de l'eau, comme une rivière, it doesn't have to be an ocean, just even a small lake, dans la nature, c'est là que je me sens à 100%.
Il suffit de recommencer les petites choses qu'on aime, d'aller voir les gens qu'on aime, de renouveler notre allégeance aux belles choses.
C'est facile à faire?
Non, c'est un travail. Tout comme l'angoisse est facile, se sortir du trou et il faut grimper.
Est-ce qu'on vous souhaite d'être un bon grimpeur pour toujours sortir des trous?
En fait, il faut s'entraîner là, dès qu'on a le temps. Il y en a qui sont des amis qui, je sens, qui sont très angoissés. Il y en a d'autres qui prennent plus facile la vie. Mon garçon, par exemple, lui, il s'en fout complètement du tout, donc il s'angoisse jamais.
Il laisse la race à son père.
Il laisse tout aller. Pour lui, tout va bien.
C'est peut-être ça, la clé. Merci beaucoup, c'est bien.
Ah, ça me fait plaisir. Puis j'espère que vous n'êtes pas trop angoissé. Hein.
À faire ce reportage-là, non, ça va.
Allez.
Merci.
On s'aperçoit que l'angoisse est confondue parfois avec un peu de l'inquiétude. Et que la véritable angoisse n'est pas toujours celle qu'on appelle angoisse, mais quelque chose de plus superficiel. Par contre, ça peut être aussi bien moral, spirituel, que matériel.
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Et votre livre, vous racontez des choses, on a l'impression que c'est de la science-fiction ou bien c'est une autobiographie?
Non, c'est pas de la science-fiction. C'est vécu entièrement et écrit entièrement.
Parce que c'était
non, fort. Parce que ben, je ne suis pas le seul à vivre ces choses-là. Moi, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui dans mon... dans mon bureau, oui. Maison Jean-Lapointe, je m'occupe des familles. Et je vois aussi, parce que je travaille aussi avec les personnes qui sont en traitement, quelques jours par mois, par 3 semaines, et j'en vois des angoissés. J'en vois beaucoup.
Oui, mais vous n'avez pas... tout le monde ne va pas, ne prend pas un abonnement à l'urgence des hôpitaux de Montréal. Tout le monde ne va pas ensuite faire de l'homéopathie, boire du jus de chou, faire du yoga, faire la secte du temple solaire. Ensuite, faire de la psychologie de vie avec une séance, 2 séances, dont la deuxième vous fait mettre à la porte par la psychologue. On ne sait pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi.
Moi, je sais pourquoi.
Oui. Après, vous le dites dans le livre, d'ailleurs.
Oui, oui. Je sais pourquoi.
Parce qu'en fait, oui, elle avait été agressée, etc. Oui. Mais quand ça vous arrive d'un seul coup comme ça, c'est quand même terriblement frustrant en réalité. Ensuite, vous avez fait du psychomassage, vous avez été voir un gourou polonais qui vous a demandé de prendre des tisanes d'herbe de foin du champ d'à côté. Vous êtes même allé quand vous êtes allé à Bruxelles, par exemple, vous avez eu un achat compulsif de bouquins, etc. Et ensuite. Attendez, non mais c'est pas fini. Vous avez fini l'école de psychothérapie. Oui, c'est fini maintenant. Ouais. Alors ma question, c'est comment est-ce que vous êtes débarrassé de cette pathologie collante, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock.
Ouais, mais vous savez, si on se reporte en arrière de quelques années, de plusieurs années, de ce vécu-là, la maladie mentale n'était pas ce que c'est aujourd'hui, on n'en parlait pas.
Le diagnostic,
ouais. Les gens ignoraient ça. Il y avait certaines cliniques, mais mon médecin à moi, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, me disait, Jean, tu sais, tu es une énigme pour la médecine.
Mais c'est vrai.
Et c'est vrai.
c'est vrai.
Mais en fait, j'étais aux prises avec une santé mentale défaillante. Où j'avais des angoisses qui venaient aussi, je somatisais des angoisses et je voulais me débarrasser de ça.
Mais au fur et à mesure que vous avanciez, vous ne vous débarrassiez pas de ça?
Non, pas du tout.
Quand vous êtes à l'école de psychothérapie...
Mais les gens abusent de ça.
Ouais.
Oui,
vous savez, même aujourd'hui, écoutez, j'en entends qui vont chez les gourous encore, qui vont chez la tireuse de cartes, qui vont changer leur alimentation, qui vont croire que le keto, ça fonctionne... Il y en a toutes les sortes.
Mais ça part d'où? Quels sont les déclencheurs où vous êtes là avec nous? Quels étaient vos déclencheurs à vous quand vous parlez de cette angoisse?
C'était une peur irrésistible. Moi, je pense que... c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question.
Oui.
Oui. Puis si j'ai la réponse, je vous garantis que je pars un bureau. Je pense que ça vient... d'abord, je parlais de génétique tout à l'heure. Je pense que c'est beaucoup génétique. Du côté de ma mère, c'était des inquiets qui grattaient leur bobo, leur anxiété. Toutes les femmes étaient... du côté de ma mère, sauf ma mère, qui étaient... des douloureuses, quoi, qui était lobotomisée, qui avait des problèmes de santé mentale qu'on ne connaissait pas. ma mère elle-même a été donnée. Mon grand-père avait dit, il y avait une tante qui était allée, puis il a dit, t'as donné une belle petite fille il y a 2 ans. Alors, il a dit, amène-la.
Donc, il y a de l'abandon dans ce vécu.
Il y a de l'abandon. Aussi, les hommes du côté de ma mère, c'était pour la plupart des alcooliques qui buvaient beaucoup parce qu'ils vivaient cette anxiété-là familiale, je pense. Mon grand-père, c'était du côté maternel. Du côté paternel, c'était un peu plus doux. Mais mon père a failli se noyer. et est devenu extrêmement peureux dans la vie.
Mm-hmm. Hein, cet agent qui me
disait, il me disait, ben Jean, tu devrais pas jouer au tennis, là, c'est dangereux, tu vas faire une crise cardiaque. Mais si je l'avais écouté, je joue encore aujourd'hui, du haut de mes 75 ans, 10 heures de tennis par semaine, à un bon niveau encore.
Mais gardez-nous votre recette secrète, on veut vous entendre encore, donc allons à la pause et on revient tout de suite après.
Te ne vai senza un perché ed io sperare che tu tornerai, perché stavolta non rimani qui insieme a me. Io ti offrirò per colazione il sole in un bignè, il miele e la rugiada gusterai su un dolce piatto di cuscini. Sognerai, inventerò ricette per la tua felicità, sono teatrali tanto belle che tu non vorrai più andartene, lo so, tu baci e so che quando sarà giorno sentirai che bene fa. Io ti offrirò per colazione il sole in un bignè, il miele e la rugiada gusterai su un dolce piatto di cuscini e tu sognerai.
Nous sommes avec Jean Robitaille.
Ouais.
Pour la dernière petite question que je voudrais... Ok, petite, tu penses. Je voudrais essayer, à la fin de votre roman, qui est autobiographique, vous dites une chose qui est importante, c'est que vous dites la mort d'abord de votre père avec des mots très délicats, mais vous faites une remarque très intéressante, c'est « coïncidence, il rendit l'âme le jour même où je commençais à revivre ».
Ouais.
C'est quand même pas rien.
C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Mais je pense pas qu'il y a la connotation. Peut-être que si j'avais à réécrire cette phrase, je le dirais pas comme ça. Vous savez, la vie est une réécriture constante. Hein?
Mm-hmm.
Vous savez comme moi. Alors, je le dirais pas comme ça. Je pense que de longues, longues années, j'ai essayé de retrouver du bien-être. Et j'ai couru après un bonheur. Je me suis dit, comment ça se fait que je fais autant de choses et que je n'arrive pas à être bien? Et ça a coïncidé avec ma rencontre avec, dans le livre, elle s'appelle Madame Mentel, mais c'était Madame Mengui qui était une psychiatre à la clinique d'anxiété de Louis H. Lafontaine, une dame absolument formidable. Et on m'avait donné des antidépresseurs, à la limite, et on dit, il faut le calmer. et là, je n'étais pas capable de prendre ça. J'avais l'impression que les cheveux me collaient au plafond. Et j'avais rendez-vous avec un autre médecin, puis il n'était pas là. Il a été un congé de maladie cette journée-là. Et c'est cette dame-là qui m'a reçu. Puis je lui ai dit, je ne peux pas prendre ça. Alors, je lui montre ma bouteille de pilules. Puis elle regarde l'étiquette, puis elle le jette dans la poubelle. Elle dit, de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez avoir à vous faire face. Mmh. Et je trouve que ça, c'est peut-être la phrase la plus importante, la plus que j'ai entendue, qui m'a amené à dire oui, Jean, faut que tu fasses face. C'est ça dans la vie.
Et quand on se fait face à nous-mêmes, c'est qu'on doit aller à l'intérieur de nous.
Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que le rétablissement, ça dépend de sa capacité à raconter sa propre histoire, à y mettre des mots, à essayer de dire, de prononcer, de voir et de changer ses paramètres, ses attentes. Moi, j'étais beaucoup dans l'attente du bonheur. Pour aujourd'hui, et ça fait longtemps que je dis ça, des années, que c'est pas ça qui est important. Pour moi, c'est l'amour qui est important. L'amour de ce que je fais, l'amour des autres.
Et l'amour de vous-même.
L'amour de nous-mêmes.
C'était peut-être ça qui manquait aussi un peu.
Peut-être que... Je ne sais pas, non, je pense pas.
Même pas,
non. On ne le sait pas, c'est une fragilité, hein? On est chimique aussi. Alors, moi, je pense qu'il y avait un manque de chimie, je crois beaucoup à ça, dans le système, que les années de travail un peu trop forcées, hein, à créer autant. Vous savez, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui créent à la journée longue et qu'ils font. Moi, je le faisais. C'était des commandes. Alors, je créais sur commande. Et ça demande beaucoup parce que, comme ils disent en anglais, « You're only as good as your last tune. » Et là, on fait face à chaque jour à risquer d'être rejeté. Alors, c'est très, très dur. Moi, je pense que je ne referai pas ça dans ma prochaine vie.
Merci beaucoup, Jean. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir.
Ben, pour moi aussi, merci à vous. Merci.
Donc, c'est un thriller que vous nous avez offert, en fait.
Oui.
Et je recommande donc de le lire à ceux qui s'intéressent à la psy, entre guillemets, car c'est très instructif, hein, sur toutes les différentes méthodes, et à ceux qui veulent s'amuser à lire les élucubrations des gourous, tous plus bizarres les uns que les autres.
Ah oui, c'est tout.
Et parfois dangereux.
Oui,
je rappelle le nom de votre livre, c'est « Guérir à s'en rendre malade » chez Libre Expression. Merci Jean.
Vous écoutez toujours « C'est bon pour la santé » sur les ondes de Canal M. François Baruel et moi-même, Camille Chai, sommes au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. Et juste avant d'aller à la rencontre de notre deuxième invité, allons écouter le coup de gueule de Patrice Cocroux qui s'intitule « La pollution sonore ».
La pollution sonore. Il y a 2 ans, je m'en vais au Carrefour Laval magasiner. Depuis que je vis à la campagne, dans les Laurentides, c'est un centre commercial où je vais de temps à autre, plutôt rarement, simplement parce que c'est sur ma route et que le stationnement est facile, aussi bête que ça. Ce jour-là, un dimanche matin à 10 heures, j'entre dans une boutique d'une chaîne de vêtements bien connue en quête de quelques chemises et d'un pantalon. La première chose qui me frappe dès que je mets le pied dans ce magasin ce dimanche matin à 10 heures, la musique. Forte, anglophone. Je viens de rentrer non pas dans une boutique de vêtements, mais dans un bar à 2 heures du matin. C'est totalement insupportable. C'est ridicule et ça ne tient pas la route. Il y a peu de monde dans la boutique et certainement pas une majorité de milléniaux. Nous sommes une dizaine, dont 50% ont au moins 40, 50 ou 60 ans. Avant de sortir presque immédiatement, car il est hors de question que j'achète quoi que ce soit dans cet environnement abrutissant, je pose la question à une jeune vendeuse. Comment vous faites pour travailler dans une telle ambiance? Elle me répond que les employés n'ont pas le choix et que de toute façon, ils prêtent plus attention à la musique. Je réponds que c'est une grave erreur. L'idée même de prendre pour acquis le consommateur et considérer que ce dernier souhaite magasiner en étant bombardé de musique tonitruante si tôt un dimanche matin est un calcul et une stratégie ridicule. Ce commerce considère que sa clientèle souhaite ce type de stimulation, de divertissement, d'ambiance. Faux, totalement faux. Je réponds à la vendeuse que ce concept est nul et que le magasin vient de perdre un client à jamais. Pas grave, me direz-vous. Au contraire, parce que le profil démographique change et que la population vieillit dans une société comme le Québec, c'est faire preuve d'une vision d'affaires totalement déconnectée. Je suis donc sorti de ce magasin sans avoir acheté quoi que ce soit. Ce type de situation est omniprésent et touche beaucoup, beaucoup de gens aussi hypersensibles que moi au son et au bruit, le plus souvent imposés plutôt que suggérés. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi, de manière systématique, dans les restos, dans les magasins, les taxis, dans de multiples lieux publics, on prend pour acquis que tout le monde aime être bombardé de musique? Avez-vous fait un sondage, vous, commerçants, qui vous affirme que c'est ce que les gens aiment et recherchent? Interrogez-vous sur le sens des relations humaines et des modes transactionnels. Vous prenez pour acquis que tout le monde pense et interagit sur une base standard normalisée? Vous êtes totalement dans le champ. Il existe énormément de gens qui n'ont pas besoin d'être surstimulés pour avoir le sentiment et l'impression profonde d'exister. Pourquoi tout ce bruit, cette pollution sonore omniprésente? C'est du délire. Je suis personnellement un être hypersensible, un auditif. À mes yeux, beau paradoxe, tout est sonore. Tout vibre, tout a une résonance, un écho, une couleur sonore. Je sais, pour en avoir parlé à mon entourage, des proches, mais également des collègues de travail, que je suis loin d'être le seul. Beaucoup de gens, en fait, ne s'identifient absolument pas à cette proposition récurrente qui consiste à investir l'espace physique de musique, de son, d'ambiance, même si le client n'a rien demandé. On n'interroge pas le public. On prend pour acquis que c'est la norme, la recette. Et c'est ça qui me sidère. On ne propose pas, on impose. On impose du bruit, on impose la musique. On croit dur comme fer que c'est ça que les gens demandent, que c'est ça qui fait vendre. Pourquoi on en est rendu à devoir exprimer ce qui, à mes yeux et à mes oreilles, va de soi? La société n'est pas une masse informe et normalisée. Combien de fois, depuis 10 ans, j'ai demandé de changer la musique dans un restaurant à défaut de pouvoir l'arrêter? À de nombreuses reprises, je dois le dire, on m'a accommodé. 90% des restaurateurs ont entendu mon message. Merci. Merci. Mais les magasins de meubles, de vêtements et les pharmacies n'en seront pas rendus là. La musique, le son, le bruit à tout prix. Se poser la question de la nécessité d'opérer systématiquement comme ça dans le but d'une remise en question, ce serait déjà un énorme premier pas. Je le souhaite de tout mon cœur.
C'est maintenant le moment d'accueillir Marie Charon en studio. Bienvenue, Madame Charon.
Bonjour. C'est un plaisir d'être ici.
Ben, le plaisir est partagé.
Oui.
Donc, vous êtes diplômée de l'Université Laval. Vous êtes nutritionniste diététiste depuis plus de 30 ans.
Oui, exactement.
Vous êtes aussi fondatrice et présidente de NutriSimple. Mm-hmm. Et vous avez coécrit avec Elisabeth Cerquera le livre « Maigrir, 21 jours de menu » qui est paru aux éditions Modus Vivendi. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? À qui il s'adresse? Parce qu'on parle de maigrir. Est-ce que les personnes qui ont pas de problème de poids peuvent être intéressées par votre livre?
Mais je pense que oui, OK, parce que le titre « Maigrir » est aussi pour la prévention, okay, de l'obésité ou de la prise de poids. Mm-hmm. Donc oui, ça peut s'adresser à tout le monde. Et pourquoi qu'on a écrit ce livre-là? Parce qu'il y a une collection auprès de Modus Vivendi qui s'appelle « 21 jours de menu » et il y a plusieurs sujets. Alors, c'est la maison d'édition qui nous a demandé de sembler rédiger sur ce sujet-là. Oui. Sur le coup, on n'aimait pas tellement le titre « Maigrir ». On voulait comme « Maigrir sans régime », tu sais, comme titre, quelque chose qui n'est pas trop comme un peu péjoratif.
Oui,
exactement.
Oui.
Donc, fait qu'on a dit « OK, on se lance dans l'aventure ». Donc, c'était pas trop quelque chose de compliqué parce que plus ça fait partie de notre travail au quotidien.
Et oui.
Là.
Et oui. Pour vous, c'est un plaisir d'inventer des nouvelles recettes et de manger sainement. Il faut que ce soit un plaisir.
Il faut que ce soit un plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, la personne, elle ne sera pas là à long terme. Elle ne le fera pas à long terme. Donc, c'est important que... Elle a du plaisir à long terme. Donc, c'est des changements d'habitude alimentaire. C'est pas quelque chose qui doit se faire temporairement. Des fois, oui, on peut avoir comme quelque chose de temporaire. Mm-hmm. Quelqu'un veut faire un jeûne intermittent, par exemple, qui dit « Ah, ben moi, j'ai pas faim le matin. » Puis ça la donne comme ça, cette journée-là. Aucun problème pour ça. Il peut attendre à manger à 11h midi. Donc, c'est pas quelque chose que... C'est vraiment que la personne soit à l'écoute de ses besoins, voilà, aussi à travers tout ça.
Oui, il faut pas être rigide.
Il ne faut pas être non plus trop libéral, puis il ne faut pas être non plus trop rigide. Il faut être un peu entre les deux, un équilibre, oui. Effectivement. Oui.
Et c'est très bien parce que dans votre livre, en fait, vous proposez un plan où c'est des repas, donc des recettes pour le matin, le midi et le soir. Donc pour les personnes qui ne savent pas trop quoi cuisiner ou qui n'ont plus d'idées, alors qu'il y a tellement d'idées à trouver dans les livres ou sur le net. Mais donc c'est une bonne façon de justement intégrer des bons réflexes au niveau de l'alimentation.
Je tiens quand même à préciser que les 20 jours de menu, c'est pas pour être suivi à la lettre, C'est pour donner des suggestions. Si on voit on voit dans le livre que c'est marqué une pomme, que la personne, son goût, ça lui tente pas de manger une pomme, elle peut prendre quelque chose d'autre. Là.
Oui. Les valeurs caloriques des repas que vous proposez là, c'est, en général, c'est quantifié ou bien
oui,
est-ce que c'est...
Oui, ça donne à peu près 1800-2500 calories, dépendant de chaque besoin. T'sais, si la personne, par exemple, est très, très, très active, veut perdre du poids, c'est sûr que ses besoins vont être plus élevés. Donc, on dit aux gens, puis d'ailleurs, on en parle dans le livre, d'être à l'écoute de ces signaux de faim et de rassasiement aussi.
Oui.
Donc, c'est pour ça que les quantités qui sont là, bien, c'est général. Donc, la personne qui ne s'entraîne pas une journée ou dans la semaine, ça se peut qu'elle ait moins faim. Oui. Donc, va ajuster son besoin en fonction de ses activités physiques aussi.
Encore une deuxième question. En fait, je ne vois pas une seule fois des céréales au petit déjeuner.
OK. Ben c'est pas parce qu'on est contre les céréales. Ça l'a donné comme ça. Là. Non, on n'est pas contre les céréales. On voulait peut-être faire un petit peu différent de ce qui se mange normalement là, dans la société.
Oui.
Puis apporter une certaine variété. Alors, c'est pour ça qu'on on a fait une variété au niveau des déjeuners.
Mais c'est très bien.
Parce que je trouvais ça très bien, justement. Ben, oui. Qu'il n'y ait pas de céréales, puisque c'est quand même des sucres rapides.
Ben exactement. Puis c'est certain, dans nos recommandations, on encourage beaucoup les aliments qui sont cuisinés à la maison, plutôt que les aliments transformés. Puis on sait très bien que les céréales, mais c'est pas le mauvais. Le gruau, je dirais que c'est la meilleure. Okay. C'est une des meilleures. Gruau de sarrasin, gruau d'avoine. Il y a plusieurs gruaux qu'on peut se faire le matin, puis on les pimpe, là, de graines de lin, graines de chia, avec des bons fruits. Donc, ça fait quelque chose qui est complet, là. Ouais.
Et quand vous parlez aussi de un petit peu changer ou d'être un peu plus original dans votre approche, dans votre livre, je trouve que justement, avant que vous proposiez les menus, bien, vous parlez de tout l'aspect avant de manger, le rapport au corps, le sommeil, la gestion des émotions, tout ça, ça oui, exactement, l'activité physique, ça a un lien directement avec notre corps, notre poids, notre bien-être.
Exactement. Vraiment, là, on a pris plusieurs points. Là, vous voyez, là, à l'intérieur, on a parlé des étiquettes, on a parlé de l'alimentation intuitive, on a parlé de le sommeil, à quel point c'est important aussi. Donc, il y a plusieurs... C'est pas juste dire qu'il y a des recettes, faites que ça. Non, il y a des choses, il y a des habitudes de vie, pas juste alimentaires. Quand on veut vraiment avoir une belle gestion de son poids, puis d'ailleurs, on encourage aussi une diversité corporelle. Dans la nature, il y a de la diversité, chez l'humain aussi. Donc, l'important, c'est est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on a pas de problème de santé?
Oui.
Donc, c'est parce que c'est relié aussi des fois. Puis des fois, les gens, c'est dans leur nature, puis ils n'ont aucun problème, puis ils ont un surplus de poids, puis il faut comme dire, bien, continuer de cette manière-là. Ils s'entraînent, ils mangent bien et tout, puis ils n'ont pas de problème de santé.
Mm-hmm.
D'autres ont un poids santé, ils ont des problèmes de santé et ils doivent faire plus attention. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste basé uniquement sur le poids, mais vraiment basé sur
l'ensemble
de la personne. Oui. Ouais.
Et on peut dire, en fait, il y a longtemps qu'on disait ce qui était à la mode, le fameux blé d'Inde, steak patate, le fameux pâté chinois. Qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui, en 2019? Hein? On peut dire c'est l'ère du tofu, du hamburger vegan, des graines de citrouille, par exemple?
Bien, je dirais que je pense que si on fait un pâté chinois aujourd'hui, peut-être qu'on le pimperait avec moitié viande, moitié lentilles. Donc, on encourage encore plus les légumineuses avec un petit peu plus de fibres. Puis aussi, c'est environnemental. On sait très bien que la diminution de consommation de viande va aider aussi au niveau environnement. Donc, oui, c'est la tendance qui va rester, je pense, dans le temps.
Oui.
Ça coûte cher aussi, la production de la viande.
Ah, c'est ce que je me demandais.
Les gens ont moins de budget alimentaire. Se diriger vers, justement, les légumineuses, qui sont des sources de protéines quand même complètes. Bien, complètes. Si on les combine avec autre chose aussi, là. Donc, c'est pour ça que c'est encore... On peut l'appeler le pâté chinois, mais pimpé, avec un petit peu moins remodifié.
Au goût du jour.
C'est exactement, au goût du jour, là. Parce que je pense pas que c'est juste une mode, là, ce qui s'en vient, là. Nouveau végétalien aussi, là. Alors, c'est ça.
Et est-ce que ça coûte cher, manger sainement?
Bien, c'est sûr que si dans notre alimentation, on a vraiment beaucoup de viande, des fruits de mer, beaucoup de poissons, oui, ça va coûter plus cher que si on s'en va plus vers une source plus végétale. Là. Donc, effectivement, puis... T'sais, je veux dire, je pense que si les gens cuisinent à la maison davantage, ça aussi, ça coûte moins cher que d'aller au restaurant ou d'acheter des choses déjà toutes préparées. Qui, ça, c'est un petit peu moins santé.
Bon, cuisiner à la maison, ça coûte finalement, en effet, moins cher. Ça dépend. Il faut choisir ses produits en fonction de la saison, bien sûr.
Ben exactement, oui. Il faut tenir compte des saisons.
C'est ça.
Et ça coûte moins cher parce que, bon, je veux dire qu'il y a pas de, on n'a pas à préparer le mode de préparation qui s'est fait lorsqu'on a acheté un aliment pour préparer.
Oui.
Puis il y a des trucs aussi pour justement que ça coûte moins cher à la maison. Là, je veux dire, si on diminue la viande puis qu'on remplace ça par des légumineuses, ça coûte pas cher, les légumineuses. C'est très nutritif aussi. Puis c'est rassasiant de manger des légumineuses.
C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche.
Exactement.
Bon, allons à la pause et on en rediscute tout de suite après.
C'est bon.
Rien à faire, je prends mes affaires. Bas ou l'autre, le chemin grand ouvert. On sait très bien qu'il ne restera rien de nous. On sait très bien qu'il ne restera rien de nous.
Alors, on est toujours avec Maryse Charron. On parle de votre livre « Maigrir, 21 jours de menu ». Il y a une question qu'on se pose, hein, la fameuse question sur la viande rouge, la viande blanche. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que c'est bon d'en manger ou pas?
Bien, je dirais encore une fois, c'est avec modération. Et je dirais peut-être plus faire attention au niveau de la viande rouge versus la viande blanche. Mais en même temps, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est les charcuteries ou ce que ça contient des nitrites qui se transforment en nitrosamines dans notre corps, qui peut être une augmentation du cancer, au niveau du cancer colorectal. Donc, c'est important, justement, de peut-être faire attention beaucoup plus aux charcuteries, je dirais.
D'autant plus qu'il y a une stagnation, justement, de cette charcuterie s'il n'y a pas une accélération de transit ou du moins un transit qui est facilité avec des fibres.
Exactement.
C'est-à-dire que si on ne mange que ces choses-là, c'est ce qui est de pire, en fait.
Exactement, parce que là, ça reste dans le côlon.
Voilà.
Et là, ça peut favoriser justement les cellules cancéreuses.
Exactement.
Cancéreuses. Donc, on dit de limiter, faire attention, on ne dit pas de ne pas en prendre, mais de faire attention justement aux charcuteries, jambon, foie gras, saucisson, etc. Ouais. Là.
Ouais. C'est choses que quand même beaucoup de personnes aiment.
Oui, mais il faut dire que le cerveau aime beaucoup les choses qui sont assaisonnés, gras, féculents, le mélange des deux, là, le sucre, le gras, le cerveau là, c'est carbure à ça, parce que pour lui, c'est un petit peu comme la survie humaine. Il veut faire du gras, le corps. Là.
Mm-hmm.
Ça sert à ça aussi. Le gras, c'est de la survie humaine. Si on n'y avait pas eu de gras chez l'humain, on n'existerait plus. Là.
Et parlant de gras, quelle est la différence entre un bon gras et un mauvais gras?
Bien, je dirais que les bons gras, c'est plus des gras d'origine végétale versus animale. Okay? Donc, on regarde les avocats. Moi, j'encourage beaucoup plus les aliments, le gras qui est contenu dans les aliments plutôt que les huiles. Okay? Les huiles, je ne suis pas contre, mais je préfère, par exemple, les avocats, les noix de Grenoble. Pensez à la noix de Grenoble, elle ressemble beaucoup au cerveau. OK? Donc, elle est bonne pour le cerveau.
Tu sais, mange la cervelle.
C'est bon. Elle contient des oméga-3, donc oméga-3 végétaux, mais quand même, c'est quand même intéressant pour le cerveau, pour le corps humain aussi. Les noix, les graines et tout ça, c'est les meilleurs gras. Ça contient des gras qu'on appelle polyinsaturés, monoinsaturés, oméga-3. Et on doit diminuer aussi les gras d'origine animale ou les mauvais gras qui fournissent beaucoup d'oméga-6, qui sont inflammatoires dans le corps. Donc, on dit de quand même
éviter
faire
ça
attention.
Un peu.
Oui, exactement.
Et vous parlez aussi de manger consciemment. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, manger consciemment, ça veut dire, par exemple, c'est quand on ressent la faim. La faim ne se ressent pas tout le temps dans un creux dans l'estomac. Des fois, c'est juste comme, oups, je sens un malaise, je sens que... Il semble que naturellement, on a envie de manger quelque chose. Et c'est un peu ça d'être mangé consciemment, c'est aussi de dire qu'est-ce que j'ai envie de manger? Quelque chose de salé, quelque chose de sucré, quelque chose d'amer, de vraiment s'écouter. Mm-hmm. C'est certain que des fois, c'est pas toujours évident parce qu'on cuisine puis on mange ce qui est devant nous, là. Mais des fois, on dit, qu'est-ce que je pourrais... T'sais, des fois, on a faim pour une collation pour dire qu'est-ce que je pourrais bien manger? Mais des fois, est-ce que j'ai vraiment faim ou c'est parce que c'est une émotion qui est là puis qui me pousse à manger?
Oui.
On s'aperçoit que l'anxiété qui est l'émotion qui nous pousse le plus à manger. Fait que là, on se dit, bien, c'est pas une vraie faim, ça, là. C'est parce que là, ça vous calme, mais là, faites quelque chose qui va peut-être vous calmer. Allez promener le chien, faites autre chose. Puis des fois, les gens, je leur dis, attendez 15 minutes, là, puis essayez de voir si vous avez encore faim. Des fois, les gens disent, mon doux... J'aurais mangé, puis dans le fond, j'avais pas faim. Fait que manger consciemment, c'est aussi ça. Puis c'est aussi d'arrêter de manger, on appelle ça le rassasiement.
Mm-hmm.
Anciennement, le terme, on dit la satiété. Là. Donc, le rassasiement, c'est de manger juste assez. C'est pas trop de dire, je déboutonne ma ceinture parce que je me sens trop pleine. Là. Donc, c'est ça un peu, manger consciemment. Puis je dis aux gens aussi, des fois, le matin, on n'a pas faim. Là, t'sais. Fait que je me dis, attendez une heure ou deux, le temps de le ressentir, cette faim-là.
On n'a pas à se forcer.
Non.
Ça me fait plaisir.
Oui. Moi, je me dis, j'enseigne ça à mes clients, je leur dis, il n'y a pas un animal sa planète, OK, qui va manger quand il n'a pas faim, puis ni un bébé manger qui n'a pas faim. Puis avant, j'enseignais 3 repas, 3 collations. Des fois, les gens, c'est ça que ça leur prend parce qu'ils attendent trop d'avoir faim. Mais je me dis, c'est peut-être pas nécessaire là, d'attendre, mais pas attendre trop d'avoir faim, par exemple. Ça, je le suggère pas. Alors oui, tu sais, quelqu'un qui dit le matin, j'ai pas faim, on attend un peu. Des fois, c'est à 10 heures, commence à avoir faim. Des fois, c'est à 11 heures.
On respecte notre corps.
Oui, c'est ça. L'important, c'est pas trop attendre, c'est ça. Là.
OK. Ouais. Et là, on parle de nourriture depuis tout à l'heure. Je veux vous demander, quelle est, vous, votre recette préférée? Est-ce qu'elle est d'ailleurs dans votre livre?
Bien, écoute, moi, j'en fais tellement de recettes. Des fois, j'ai des recettes, pas de recettes. Hein?
Oh,
ouais, je cuisine comme ça. Mais j'aime beaucoup la salade de roquette au pois chiche, où des fois, j'en mets des lentilles, puis je mélange toutes sortes de choses à l'intérieur. C'est la page 128 là, de mon livre. Mais, je veux dire, moi, je suis la personne qui... C'est pour ça que quand on fait des livres, on fait des portions très, très précises au niveau des ingrédients, bien, ça demande plus d'efforts parce que moi, je fais souvent des recettes, pas de recettes. C'est sûr que je suis une maniaque, je suis végétarienne, à tendance végétalienne, donc j'ai beaucoup de végétaux dans mon alimentation. Fait que moi, c'est certain que c'est ma préférence.
et pour terminer, j'ai envie de vous demander quelles sont les collations coupe-faim que vous conseillez à tout le monde?
Premièrement, les collations, je ne les conseille pas à tout le monde. Ah. Okay? Les collations, c'est seulement si on ressent le besoin d'en prendre. Des fois, les gens vont prendre un bon dîner, qui est quand même rassasiant. Ils sont capables de se rendre jusqu'au souper. Il ne faut pas attendre, par exemple, si on arrive au souper, là, puis on a vraiment, vraiment trop faim. Ça veut dire qu'on a eu faim avant, okay. autour de 3 heures. Mais ça peut être, par exemple, juste le cru de sa main, une petite poignée de noix avec une clémentine. Ça pourrait être ça,
faire des collation. Combinaisons de bons aliments.
Oui, exactement. Mmh. Ça peut être un petit peu d'humus avec des crudités. Quelque chose qui est très simple. Faut pas que ça soit compliqué puis très lourd non plus. Parce qu'il faut pas oublier aussi que digérer demande de l'énergie. C'est pour ça qu'on dit aux gens de prendre des gros dîners et ils dorment l'après-midi.
C'est pas nécessaire.
Ils ont le goût de faire une sieste parce qu'ils digèrent. Donc, c'est ça que j'encourage.
Ça donne faim, tout ça.
Ouais, c'est bien. De la vraie ou de la fausse?
Non, de la vraie. De la vraie. Allez, allons-y.
On appelle ça l'appétit.
Oui, c'est ça.
C'est bon.
Merci beaucoup, Maryse Charron, d'être venue nous voir en studio aujourd'hui. Et je rappelle le titre de votre livre qui est « Maigrir, 21 jours de menu », paru aux éditions Modus Vivendi. Et je vous souhaite bon appétit.
Ah, merci, ça me fait plaisir. Merci.
Camille,
oui, Chai, François.
Ma chère Camille, c'est le moment qu'on attend tous, ton billet. Le billet, tu m'as dit aujourd'hui, ce serait sur la cigale et la fourmi.
Oui, c'était
de
mon...
La Fontaine.
Oui, exactement. C'était mon inspiration du moment. Pour faire suite à nos deux entrevues qu'on a eues aujourd'hui, j'ai envie de vous rafraîchir la mémoire et je vous offre donc cette belle fable. Et donc, je la cite. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Donc, je trouve ça beau, en fait, je vous avoue. ça fait du bien de la réciter, de se remettre. Hein, c'est une fable qu'on apprend quand on est à l'école, quand
oui,
on est jeune.
Ça fait, oui.
Et je me pose la réflexion, est-ce que je me sens plus fourmi ou cigale moi-même? Et je t'avoue, François, et je vous avoue à tous ceux qui nous écoutent, que je pense que l'idéal serait de trouver un entre-deux, non?
Bien sûr.
Parfois, on peut être fourmi, parfois, on peut être cigale.
Oui, parce qu'être fourmi tout le temps, c'est pas très amusant quand même.
Ben ouais. Non, voilà. Donc, tu vois, on amène la notion du plaisir.
Exactement.
Donc, de travailler fort et de prendre le temps de profiter, de se récompenser. Et je pense que des belles qualités des deux côtés. D'ailleurs, ça me fait penser à donc la cigale qui profite du moment présent, donc elle est vraiment en lien avec le plaisir. Ça me fait penser à moi dans la vie de tous les jours. Bon, je le répète encore, hein, étant née sans bras ni jambe gauche, le fait de me dépenser, de faire plein de choses, des fois j'oublie. j'oublie de m'arrêter pour me ressourcer, reprendre des forces, pour prendre le temps de manger. Et contrairement à la fourmi qui, elle, va être plus stratégique, qui va travailler fort, eh bien, c'est vrai que oui, je me vois des fois à travers la fourmi et je vous partage un petit truc quand je dois manger, quand on parle de stratégie qu'on doit développer, le fait d'avoir juste une main. Des fois, les aliments dans l'assiette vont se balader un peu partout, hein? Donc ça peut être difficile de les attraper juste avec la fourchette. Donc si, par exemple, j'ai une purée de patates avec des petits pois et un morceau de poisson, par exemple, la stratégie, c'est de garder l'aliment qui est le plus lourd et consistant dans l'assiette, donc la purée de patates en l'occurrence, où je vais pouvoir aller pousser mes petits pois contre la purée de patates pour ne laisser plus aucune miette dans l'assiette. Donc, vous, hein, chers auditeurs, j'imagine que vous avez dû travailler fort toute l'année et j'ai envie de vous souhaiter de maintenant récolter, de profiter du fruit de votre labeur et de vous donner du temps pour en profiter pendant l'été.
Ça, c'est sage.
Ah, voilà. Et François, c'est ce qui termine notre émission, mais non seulement l'émission, mais la saison. Et oui, c'était notre dernière. Et ce fut un énorme plaisir de recevoir tous les invités tout au long de la saison. Et un énorme merci aux chroniqueurs d'aujourd'hui ainsi qu'à toute l'équipe. Donc, je nomme Jean Robitaille, Maryse Charon, Annick Fillion qui a été notre vadrouilleuse, Patrick Coquereau et Myriam Daguzan-Bernier qui ont été nos collaborateurs, Catherine Bourderon qui a été notre chroniqueuse et recherchiste, et notre cher Jean-Sébastien Laliberté qui est toujours avec nous derrière la vitre qui s'occupe de la mise en onde. Et sans t'oublier, toi, mon cher François, merci.
Oh, merci.
C'était une belle aventure.
Chère Camille.
Hein?
Oui, c'est une belle aventure. C'est super, on va recommencer.
Oh oui, tout à fait. Et justement, on vous donne rendez-vous à la saison prochaine, hein, après que vous ayez dansé tout l'été. Donc, on vous donne rendez-vous à l'automne prochain pour C'est bon pour la santé.
C'est bon pour la santé.